Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz, avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute.
Raconte-moi un marais, une émission de Tania Rachaud, produite par Amicus Radio.
Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un marais. Dans ce troisième épisode de la série spéciale où l'on aborde les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont trait aux questions LGBTI, on va se rendre en Italie et discuter discrimination à l'embauche. Au programme du jour, la décision NH, qui est un avocat italien, qui indique ne pas vouloir embaucher des personnes LGBTI. C'est une décision qui date du 23 avril 2020, une affaire C-507-18 rendue en grande chambre par la Cour de justice de l'Union européenne. On pourrait aussi l'appeler l'affaire Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, qui défend en justice les droits des personnes LGBTI, un peu d'ailleurs comme l'association Mousse dont nous avions parlé dans un précédent épisode. Pour revenir à la décision NH, j'ai en tout cas aujourd'hui le plaisir d'accueillir Maître Francesco Rizzi, qui a pensé toute l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne avec le cabinet d'avocats italien Rete Lentford. Hello Francesco Rizzi.
Hi, nice to meet you. Thanks for having me.
With pleasure. Nous échangerons avec Maître Francesco Rizzi donc en anglais. Et je traduirai ensuite. Si vous comprenez l'anglais, vous pourrez apprécier vous-même les réponses. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez me juger sur mon interprétation. C'est une affaire qui démarre lors d'une émission sur la Radio 24, une émission appelée La Zanzara, qui veut dire moustique, avec un présentateur justement qui ne cherche pas toujours le politiquement correct, disons. Et donc il y a un avocat, NH, qui répond aux questions de ce présentateur et qui en profite pour affirmer qu'il n'est pas question d'avoir ni d'embaucher des confrères homosexuels. Il précise aussi qu'il n'y a pas de recrutement en cours au moment de son discours à la radio, et ça, ben, ça aura son importance juridique. Alors, Maître Francesco Rizzi, comment avez-vous eu vent des propos de NH et comment avez-vous eu l'idée de les attaquer en justice devant le juge du travail de Bergamo? So Francesco Rizzi, tell us, how did you decide to sue NH Speech? How did you hear about it also and go in front of the employment judge of Bergamo?
It happened, I remember, it was at dinner. I was at dinner with my dad and I heard the interview live, and at the time I remember I was angry about the words of this very popular lawyer in Italy. NH is a popular lawyer in Italy, was also a former member of the Italian parliament. I was angry because I felt that, I mean, this guy was very proud and felt that he could say whatever about gay people in the profession. And so as a citizen also, that makes you think that, there is a lot to do in order to change society. But given that I've been lucky enough to study anti-discrimination law since the time of the university with great mentors, it did resonate in me something. I felt that there was something more to do than just being upset or angry about the statement. And in the following days, a lawyer, because at the time I wasn't a lawyer, associated in Rete Lentford, Avvocatura per i diritti LGBT, the association then, which then brought the case, make a wrote a post on Facebook saying that we should as lawyers do something, and he proposed to do something before the National Bar Association as a ethical legal problems respect of rules of lawyers ethics. But I remember exactly, I was in Rome at the time. I called him and he said, not in my, no, in my view, in this case, we can submit a complaint for collective discrimination. I remembered at the time the cases that were there was the Ferrin case and the Accept case of the EC, of the European Court of Justice. And so on the basis of that that case law of the Court of Justice, we create a team of lawyers and non-lawyers in Rete Lenford. I remember there was Antonio Rotelli. If I can, I'd like to name the people who were involved: Antonio Rotelli, Caterina Caput, and we involved Alberto Guarizo, who is the leading ex-lawyer in the field of anti-discrimination law in Italy. And we submit, we studied the case and we submit the complaint before the Tribunal of Bergamo as a matter of procedural competence, because for, I mean, given that Rete Lenford has its main headquarters in Bergamo, the law says that you need the tribunal competent to decide in the first instance the case is Bergamo.
Alors Francesco Rizzi m'explique qu'en réalité il est en train de dîner avec son père et il a entendu l'interview en direct. Et ça l'a mis très en colère, et bien évidemment, hein, contre les paroles de NH, qui est un avocat assez populaire en Italie et qui est même d'ailleurs ancien député italien. Et donc ça l'a agacé de l'entendre parler comme ça, c'est-à-dire d'être fier de pouvoir dire ce qu'il voulait à propos des personnes gays, et donc ça l'a agacé en tant que citoyen avant tout. Mais il venait aussi de finir ses études, et il avait abordé beaucoup la question de la non-discrimination, ce qui finalement a résonné en lui, et donc il s'est dit il y a plus à faire que juste être en colère. Et à ce moment-là, justement, il y a un autre avocat du cabinet Rete Lenford qui poste sur Facebook un message disant « il faut faire quelque chose, saisissons l'ordre des avocats, évoquons-le comme un problème éthique, déontologique ». Et donc, Francesco Rizzi décide de l'appeler et de dire « il y a plus en fait à faire que juste le côté déontologique, on peut le poursuivre ». Il s'appuyait sur donc ses connaissances récentes, la jurisprudence de la Cour de justice. Et donc finalement, il s'est monté une équipe au sein du cabinet Rete Lenford avec des avocats, d'autres pas avocats. Francesco Rizzi, à ce moment-là, n'est pas encore avocat. Et donc d'ailleurs, il cite le nom des personnes qui ont été impliquées dans cette équipe. Et finalement, ils vont présenter l'affaire devant le tribunal de Bergame parce que c'est là où il y a le siège social du cabinet, justement, Rete Lenford. L'idée était bonne puisque le tribunal de Bergame reconnaît la discrimination et condamne même NH à verser 10 000 euros d'indemnisation à l'Associazione. Bien entendu, NH interjette appel, mais son recours est rejeté. Reste donc, à l'image de la France, le pourvoi devant la Cour de cassation. L'argument juridique de NH repose donc sur le droit italien principalement et surtout sur le fait qu'il s'exprimait, non en tant qu'employeur, mais en tant que simple citoyen. Et donc c'est ensuite la Cour de cassation italienne qui va se tourner vers la Cour de justice pour lui poser deux questions. L'Associazione pouvait-elle d'abord agir sur le fondement de la directive 2078 qui porte sur l'interdiction générale de discrimination en matière d'emploi et de travail? Et les propos tenus de façon générale à la radio entrent-ils dans le champ d'application de cette directive? Suivons la logique de la Cour de justice de l'Union européenne qui va donc inverser les réponses puisque, évidemment, il faut d'abord savoir si les faits entrent bien dans le champ d'application de la directive pour ensuite déterminer si l'association pouvait agir. Pour bien comprendre le débat, il faut ainsi indiquer qu'en l'an 2000 sont adoptées deux directives. Une première, la 2043, en juin 2000, qui interdit toute discrimination, quelle que soit la situation, mais seulement sur les questions de race ou d'origine ethnique. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la 2078, qui est d'ailleurs adoptée le jour de mon anniversaire, qui porte sur les questions de discrimination liée au travail, avec davantage de motifs, car son champ d'application, le travail, est plus limité. Sont alors interdites les discriminations liées au travail pour des motifs de religion, de conviction, d'handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Cette seconde directive a donc plus de motifs, mais dans des situations plus précises liées au travail. Dans notre affaire NH, on se demande si on est effectivement, en matière d'emploi et de travail, pour cette déclaration, cette interview qui a été faite à la radio alors qu'il n'y a pas d'embauche en cours. Maître Francesco Rizzi, comment avez-vous eu l'idée de pousser finalement pour un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne?
Well, the case was sent to the ECJ by the Supreme Court, the Italian Supreme Court, which clearly has doubts about the outcome of the decision in Bergamo that was then confirmed by the Court of Appeal. And in that case, with the request for a preliminary ruling, the Supreme Court thought that given that at the time wasn't clear whether or not there was a selection procedure going on, the court asks whether in this case this sort of statement and it was clear that we were referring only to the statement about employment policies in this hiring policies in this law firm. We weren't referring to all the statements he made about homosexuality, but in any case, the court asked to the ECJ whether or not this sort of statement was merely an expression or can fall within the freedom of companies. They can fall within Article 16 of the A Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the Supreme Court made this reference to some case law of the European Court of Justice on neutrality policy about religion that didn't, in our view, wasn't really pertinent to the case because, I mean, having a policy of neutrality is nothing comparable to saying publicly that I don't hire people because of one prohibited grounds of discrimination. But at a certain point, they didn't see that there was already, in their view, a violation of the prohibition of discrimination. While in the Ferring case, there was in the case an hiring procedure at the time. And so that could make a difference in the view of the Supreme Court.
Alors, la Cour de cassation italienne donc, a envoyé la question à la Cour de justice de l'Union européenne parce que, eh bien, finalement, elle avait des doutes assez importants sur la position du tribunal de Bergame et la Cour d'appel qui avait confirmé la position du juge de première instance. Et donc, dans la question préjudicielle, la Cour de cassation pense que ça n'est pas clair vraiment de savoir s'il y avait recrutement ou pas, et donc de savoir si ce type de discours pouvait être poursuivi sous l'angle de la discrimination liée au travail, donc de la directive de 1078. Pour Rent & Lenford, justement, le cabinet donc, qui a défendu tout ça, c'était bien la question du travail, justement, qui était ciblée. Il n'avait pas poursuivi les propos homophobes en général, mais c'était limité à l'angle du travail. La Cour de cassation va se retourner vers la Cour de justice de l'Union européenne et va alors, de façon assez surprenante, hein, comme nous l'explique Francesco Rizzi, faire mention des questions de politique de neutralité vis-à-vis des religions. pour en fait justifier les interrogations qu'il y a liées à l'application de la directive, et on voit finalement assez mal le rapport avec la situation en cause.
We were amazed by the ability of the Advocate General Sharpstone to fully understand the case and take further what Advocate General Maduro did in the Faring case, and also their ability in explaining why the sort of statements are not about freedom of expression, but are specific, are cases of discrimination, and why sanctioning this sort of statement is, to a certain extent, important. It might not change what this guy does every day in his law firm, but still it suggests that you can go free when you believe that some private grounds of discrimination are an obstacle to do a profession because you don't like people because of that. And so, I mean, explaining that this sort of statement creates real barriers and do not prevent people not to have maybe many opportunities, but to feel free to go and submit application wherever they want without hiding. That's the whole point. And she started, Advocate General Sharpstone started her opinion with a Greek quotation, which translates that words have wings. And I remember that I've studied this case a lot, and I have the chance to go back to the theory of speech acts, which is fascinating also for people who are not into legal things, but it did explain a lot about this case and why law needs to intervene in this sort of, when there are these sort of speeches.
Donc j'ai interrogé Francesco Rizzi aussi sur la position de l'avocate générale dans cette affaire, hein, qui, je le rappelle, intervient avant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et en l'occurrence, il s'agissait de Eleanor Sharpstone, une avocate générale britannique qui est partie avec le Brexit. Mais donc, Francesco Rizzi nous explique le fait qu'il était positivement surpris de l'approche qu'avait Sharpstone et sa compréhension de l'affaire, et surtout finalement d'expliquer pourquoi c'était important de sanctionner ce type de discours, même si on se doute que NH lui-même ne va pas changer sa pratique au quotidien, mais c'est important de faire en sorte que ce genre de fait ne reste pas impuni, que finalement les personnes concernées se sentent libres de postuler où elles le souhaitent et pas entravées parce que il y a eu ce discours, et s'interroger de savoir si elles sont libres d'être qui elles souhaitent être, y compris dans leur profession. Et donc, il nous explique que l'avocate générale Sharpstone commençait ses conclusions par une citation en grec qui nous a traduit par « les mots peuvent avoir des ailes », ce qui revient aussi à la théorie des actes et du discours, qui vient justement redire que certaines circonstances peuvent, avec les mots, peuvent finalement, la force des mots qui peut finalement affecter la réalité. Et c'est assez beau, effectivement, et Sharpstone était une avocate générale habituée de ces beaux mots, et ça ne m'étonne pas, évidemment, qu'elle ait adopté cette position et cette approche dans cette affaire. Et la Cour aussi, d'ailleurs, dans la suite, va donner rapidement la tonalité, puisqu'en listant les aspects liés à l'emploi, on comprend bien qu'elle rappelle que la directive de 1078 a un objectif assez large. Elle nous dit que la directive s'applique donc aux conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection, les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et même en matière de promotion. Mais en l'absence de définition de tous ces termes que je viens de citer, comme d'ailleurs parfois il y a dans les réglementations de l'Union dans les premiers articles, ici ce n'est pas le cas, et la Cour va donc s'inscrire dans une démarche téléologique en s'interrogeant sur l'objectif de la directive, dont le fondement est l'actuel article 19 du TFUE, qui vise à combattre toute forme de discrimination. Et d'ailleurs, la Cour rappelle aussi l'existence de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'égalité de traitement. La juridiction de l'Union va donc rechercher, dans sa jurisprudence aussi, des précédents, notamment une décision de 2013 qui porte sur la discrimination lors de déclarations publiques sur une politique d'embauche. En l'occurrence, il s'agissait d'un club de foot roumain et c'était le sujet d'un transfert de joueurs qui était en cause et donc la directive s'était effectivement appliquée. Dans cette décision d'ailleurs, quand bien même la personne qui avait tenu le discours discriminant n'était pas celui qui embauchait directement le joueur, l'absence en revanche de distanciation de l'employeur vis-à-vis de ces mots de ce discours avait suffi à faire entrer les faits dans le champ d'application de la directive 2078. Et donc la Cour va ensuite clairement affirmer, grâce à cette interprétation téléologique de recherche du but, que la situation italienne relève aussi de la directive. Mais avant, elle va s'interroger sur la question de la liberté d'expression, alors même que cela ne figurait pas dans la question préjudicielle du juge italien. Et donc Francesco Lizzi, dites-nous finalement comment la liberté d'expression est devenue un sujet dans cette décision. Est-ce qu'il s'agissait des arguments de NH, voire ceux des gouvernements italiens ou grecs ?
It was an NH argument. It was somewhere there in the request for a preliminary ruling of the Supreme Court. Because at a certain point, the Supreme Court mentioned the idea that even these words were discriminatory in a non-legal sense. They might not be relevant for the purpose of the application of the prohibition of discrimination because there was not an hiring procedure. And NH has always claimed that this sort of statement fall within the protection of freedom of expression. He referred to our national constitutional provision about freedom of expression. But I do believe that the argument of the court about how freedom of expression is interfered with by the prohibition of discrimination, but it's the court balancing exercise is very efficient. It's one of the most rigorous example of balancing between freedom of expression and other rights that in my experience I've read and saw in a decision, because it's very rigorous. And it gave and it create a great precedent in order to being really able to interfere with freedom of expression without, I mean, compromising the right to freedom of expression too much, which is, I mean, of course, a fundamental right in a democratic society. Again, the theory of speech acts and the philosopher who have spoken and linguistics who have studied that issue give to lawyer interesting thought about what it really means protecting freedom of expression, which is not just uttering, it's the right expression, words, I mean, saying words just for the sake of saying words, but it's more about, giving, protecting education, which gave the press, the freedom of the press, so giving people and citizens their means in order to express themselves. But anyway, in this case, it was a good opportunity to explain why freedom of expression is not an absolute right, and in my view, containing it in with a fair balance, interfering with it with a fair balance. The Supreme Court, the Italian Supreme Court, when the case came back from Luxembourg, basically applied the decision of the European Court of Justice, and on the issue of freedom of expression said that the balance struck by the court is also very coherent with what our constitutional court says about the right to freedom of expression as protected by Article 21 of the Italian Constitutional Court. It was very brief in talking about this issue, because it said it's coherent with what our constitutional court says. This is not an absolute right.
Donc c'était effectivement les arguments de NH de la question de la liberté d'expression qui étaient déjà là dès l'envoi de la question préjudicielle. La Cour de cassation avait finalement déjà évoqué dans la question préjudicielle eh bien, que les mots en soi étaient quoi qu'il arrive discriminatoires, mais que se posait la question du cadre juridique qui pouvait s'appliquer donc sur ce discours. Et donc pour NH, l'angle qui l'avait avancé, eh bien, c'était celui de la liberté d'expression. Et il avait pour ça, évidemment, utilisé la constitution italienne qui garantit la liberté d'expression. La Cour de justice va mettre en balance, et on va y revenir très rapidement, cette liberté d'expression avec les autres droits. Et pour Francesco Rizzi, c'est un exemple assez rigoureux de cette mise en balance et un bon précédent pour montrer eh bien, comment la liberté d'expression fonctionne et le fait que c'est pas un droit absolu, mais qui peut être effectivement limité dans certains cas. Il rappelle donc cette théorie du discours et le fait que ça puisse inspirer les avocats, notamment les écrits des philosophes et des linguistes, pour dire que eh bien, les mots sont importants. La liberté d'expression ne couvre pas forcément le fait de dire n'importe quel mot, mais le fait de pouvoir s'exprimer et qu'il est utile de bien choisir ses mots. Et l'objectif est surtout de donner les moyens à chacun de s'exprimer. Et donc c'était une bonne opportunité aussi de rappeler toute cette mise en balance. La Cour de cassation italienne a ensuite appliqué la décision en elle-même estimant que la mise en balance proposée par la Cour de justice de l'Union européenne était cohérente avec la Constitution italienne. Pour en revenir à l'analyse de la Cour, elle va s'appuyer justement, comme on a commencé à l'indiquer, sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 52, qui permet justement de s'interroger sur les limites d'un article de la Charte. La première étape alors de l'analyse est de savoir si la limite en question respecte le contenu essentiel de la liberté d'expression. Et la Cour de justice, ici, estime que c'est le cas, puisque l'entrave, la limitation de la liberté d'expression, est limitée à l'application de la directive 2078. Enfin, l'atteinte à la liberté d'expression, eh bien, est-ce qu'elle est disproportionnée dans la situation italienne? C'est la question que se pose la Cour de justice, et elle estime que ça n'est pas le cas, puisque l'objectif est seulement d'interdire les propos discriminatoires en matière d'emploi ou de travail. La Cour va donc estimer que la situation en cause peut être contraire à la directive 2078, même si la juridiction nationale doit encore vérifier que les liens entre la déclaration et l'embauche dans le cabinet d'avocat de NH ne sont pas totalement hypothétiques. Rapidement, sur la première question qui avait été posée, la Cour estime que la directive n'oblige ni n'interdit aux États membres de reconnaître un droit d'action au général in abstracto aux associations sans qu'il y ait de personnes lésées, comme en l'espèce. Francesco Rizzi, finalement, vous avez commencé à le dire, mais racontez-nous comment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne a été reçue en Italie par donc cette Cour de cassation italienne, mais aussi en général, finalement.
There was some media coverage, and the guy, I remember the title said that his statement was, I have already paid the money for damage that was sentenced. He was sanctioned for it in the first instance. And I think he said something about not being a martyr, but somehow being a victim of something wrong, but without, I'd say, without believing that in it too much. I mean, it was many years later than the radio broadcasting, because the case, the ECAJ, the case was in 2000, the radio broadcasting was in 2013, and the decision of this ECJ was in 2020. The case became a reference point for lawyers in Italy, and it was recently applied in another very similar case of very well-known fashion designer in Italy, and she said that she doesn't want to hire women in until they are 40, because otherwise they have trouble. They cannot work for her 24 hours a day because they have family issues, care issue with the children, and blah blah blah. She said that, and I mean, the fashion designer is Elisabetta Franchi. She's quite popular, I guess, also beyond the Italian territory. And it's precisely because of the NH case that another tribunal sanctioned her for discriminatory speech, applying the very same reasoning of NH. And there is another case going on now for a popular chef who wrote a post on social media for an hiring procedure, claiming that he doesn't want some people because of some also prohibited grounds of discrimination. And I believe that the NH case will help also in this regard. It is true that it might not it might not change the behavior of people, of employers who want to discriminate when they have hearing selections, and so when they meet people. Still, we cannot, this case cannot go that further. But I do believe that saying that, stating and clarifying that there are things that you cannot said without to consider the consequence of what you are saying, it's an important statement. The decision of the ECJ in Italy are effective in legal terms, so they are respected by the courts.
Alors, à la suite de la décision en 2020, il y a eu une couverture médiatique. ENH a dit, par exemple, qu'il avait déjà payé les indemnisations, puisque celle décidée par le tribunal de Bergame avait été confirmée. Mais il a aussi dit quelque chose comme il était un peu victime de cette décision, mais Francesco Rizzi nous dit qu'il n'y croyait pas vraiment non plus. Et finalement, la décision de la Cour de justice en 2020 intervient eh bien, très longtemps après l'émission de radio elle-même qui avait été diffusée en 2013. Mais, et c'est ça qui est assez intéressant ici, il nous explique aussi que l'affaire est devenue une référence pour les avocats en Italie et qu'elle a reçu d'autres applications depuis. Récemment aussi, elle a été appliquée à une créatrice de mode, Elisabetta Franchi, qui avait annoncé ne pas vouloir embaucher de femmes après leurs 40 ans parce que, évidemment, elles étaient occupées avec les enfants, donc elles n'avaient plus le temps de s'investir dans le travail. Donc ça a été sanctionné juridiquement sur le fondement de la jurisprudence NH. Il y a aussi un autre chef qui a publié sur les réseaux sociaux des critères d'embauche assez discriminants. Et donc, probablement, vis-à-vis de ce chef, qui est une affaire en cours, les critères NH vont aussi s'appliquer. Donc, ce qui fait que, évidemment, on voit bien que c'est difficile de faire en sorte qu'un employeur change totalement de comportement, et notamment pendant les entretiens. Mais au moins, c'est possible aujourd'hui de faire attention à la façon dont sont publiées des annonces d'emploi et d'éviter qu'il y ait des critères discriminants. Alors après, Francesco Rizzi ouvre la discussion sur d'autres éléments qui effectivement dépassent malheureusement le podcast, qui sont notamment la question de l'approche de l'Union européenne en général par l'Italie ces dernières années, même s'il nous dit quand même, et c'est important, que la Cour de cassation italienne et les autres juridictions respectent les décisions. Or, ça n'est pas toujours le cas. Dans cette série spéciale LGBTI, il y a pas mal de décisions qui n'ont pas été appliquées par la suite, et on y reviendra notamment bientôt avec une décision Coman. Je remercie beaucoup Francesco Rizzi. Thank you a lot. It was really a pleasure to talk with you. And I want to say bravo for all the good work. And it's very inspiring, I think, for young students.
Thank you very much. Grazie mille. Merci.
Je le remercie beaucoup parce que je pense que c'est très inspirant de voir que dès le début d'une carrière, on peut rechercher des outils juridiques innovants, monter une équipe, investir une question et en faire sortir une décision qui est marquante au niveau de l'Union européenne et qui est marquante au niveau de l'Italie et qui continue de s'appliquer. Donc vraiment un grand merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast, mais abonnez-vous pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode.